France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 janvier. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les grands moyens en Chine pour lutter contre le coronavirus. Rentrée scolaire reportée, voyage à l'étranger déconseillé, habitants confinés et la psychose qui gagne Pékin alors que le bilan s'alourdit. 106 morts et plus de 4000 cas recensés. En France, ce sont les masques de protection qui s'arrachent. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
En matière de pouvoir d'achat, il y a la réalité des chiffres et le ressenti des Français. France Inter vous révèle les résultats de l'étude CTLM. Deux salles, deux ambiances hier soir à Paris pour le duel à distance Griveaux-Villani. Les mises en garde de Bruxelles à Londres à trois jours du Brexit et le portrait du premier chef japonais à décrocher une troisième étoile en France.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
La vague écolo aux européennes se reproduira-t-elle au municipal? Il veut y croire. Entre Hidalgo, Dati, Griveaux-Villani, il est le candidat qu'on connaît le moins à Paris. Qu'a-t-il dans le ventre? David Béliard sera avec moi à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Aujourd'hui, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le standard d'Inter est déjà ouvert. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
La bataille contre le coronavirus sera longue et difficile. Pour les experts, l'épidémie va durer plusieurs mois et toucher des dizaines de milliers de personnes. L'OMS a d'ailleurs révisé son jugement, estimant désormais la menace élevée, sans toutefois déclencher d'alerte au niveau mondial, car on ne connaît pas encore tout du mode de transmission, notamment si les personnes infectées sont contagieuses avant de développer la maladie. Des incertitudes alors que le bilan ne cesse d'augmenter, 106 morts et plus de 4000 cas recensés. Et après la mort d'un premier malade à Pékin, une fébrilité certaine a gagné la capitale chinoise où se trouve la correspondante de France Inter, Dominique André.
À Pékin, les mesures de prévention sont diffusées dans toutes les résidences. Des notices d'information ont été collées sur les portes et dans les cages d'ascenseurs. Des haut-parleurs diffusent des messages dans certains quartiers comme dans le nord de la capitale pour informer la population. Il faut éviter les rassemblements et les activités collectives le plus possible, peut-on entendre. Il faut éviter aussi les endroits et les zones peuplées. Il faut porter le masque quand vous sortez. Monsieur Li est livreur. Depuis hier, il sent l'angoisse monter dans la ville, surtout parmi les clients du supermarché où il travaille. Les prix des légumes ont augmenté. Les gens ont peur de manquer de vivre.
Ah oui, les gens achètent en très grande quantité. Là, par exemple, j'ai une commande de produits, ça pèse 20 kilos. Il y a de l'eau, des sacs de farine, du riz, du lait en poudre. Et hier, les gens ont stocké des pâtes instantanées en très grande quantité.
Les autorités chinoises ont reporté s'inédier la rentrée dans tous les établissements scolaires et universitaires du pays, dans l'espoir d'endiguer la contagion. Pékin, Dominique André, France Inter.
Les autorités chinoises qui recommandent également ce matin aux ressortissants chinois de ne pas quitter le pays. L'épidémie touche désormais une quinzaine de pays dans le monde, avec une cinquantaine de cas recensés hors Chine, dont trois en France, où les appels aux 15 sont en très nette hausse. Et à Amiens, les pharmacies doivent faire face à une demande exponentielle de masques de protection. Reportage de Marc Bertrand.
C'est l'annonce des premiers patients hospitalisés en France qui a été le déclencheur, selon Guillaume, pharmacien près de la gare d'Amiens.
On a été surpris, c'était samedi, on a eu énormément de demandes de masques.
Et tous les pharmaciens du centre-ville le disent, ils ont été dévalisés.
Samedi, entre 1000 et 1300 masques ont été vendus, tout le stock. C'est la folie.
Même les grossistes sont en rupture de stock au niveau national. Évidemment, c'est la peur qui motive les clients.
Peur du virus chinois, ils entendent ce qui se passe, les gens achètent des masques, donc tout le monde achète des masques.
Mais Agnès l'a remarqué, ce sont surtout ceux qui partent d'Amiens qui sonnent à sa porte.
Bon, c'est beaucoup d'Asiatiques qui achètent pour partir là-bas en fait. Et il y a beaucoup aussi de gens qui vont sur Paris et donc qui se protègent.
Pourtant, la plupart des masques de protection vendus en pharmacie ne sont pas vraiment efficaces.
Le mieux, en fait, c'est les masques FFP3. Bon, là, c'est des masques chirurgicaux. Il faut les changer tous les 2 à 3 heures pour éviter d'être contaminé, mais qui coûtent très cher et qu'on n'a pas.
Et SOS Médecins le confirme. Pour l'instant, leur centre amiénois n'a reçu aucun cas suspecté d'un possible coronavirus. Comme dit une pharmacienne, l'épidémie dont il faut s'inquiéter en ce moment, c'est plutôt la grippe.
La grippe qui, effectivement, tue chaque année près de 10 000 personnes en France.
Il est 7h05, Agnès. Une étude sur le pouvoir d'achat des Français et leur ressenti.
Car si les statistiques de l'INSEE montrent que le pouvoir d'achat est en hausse, près de la moitié des Français, selon une étude que vous révèle France Inter ce matin, ont le sentiment que leurs fins de mois sont de plus en plus difficiles. Explication signée Maxime Debs.
Le constat n'est pas vraiment nouveau. D'année en année, le pessimisme des Français tranche avec celui de ses voisins. Le souci, c'est qu'ici, alors même que l'INSEE l'affirme, que le pouvoir d'achat a augmenté de plus de 2% l'an dernier, le ressenti n'est pas le même, le nez dans son porte-monnaie. Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de la consommation.
Ce qui est vraiment nouveau, c'est que là, le pouvoir d'achat, il augmente, les chiffres sont là, avec les différentes mesures qui ont été prises, mais ça ne semble pas passer dans l'esprit d'une majorité de Français, puisque quasiment un sur deux nous dit « non, non, moi, mon pouvoir d'achat baisse ».
En gros, le gouvernement a beau avoir sorti le carnet de chèques, 17 milliards d'euros engagés notamment pour éteindre la crise des gilets jaunes, rien n'y fait, la perception négative domine, bien ancrée, ce qui incite les Français à faire toujours plus attention à leurs dépenses.
Même avec des taux d'intérêt qui restent extrêmement faibles, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui l'épargne ne rapporte plus rien ou pas grand-chose, et bien ils continuent à garder cette épargne de précaution, y compris d'ailleurs sur des produits financiers qui, encore une fois, aujourd'hui ont des rendements extrêmement faibles.
Parmi ces produits, bien sûr, le livret A, dont le taux baissera cette semaine à 0,5%. L'une des raisons de cette frilosité serait à trouver dans les loyers, dont la part dans le budget ne cesse d'augmenter, faisant dire aux Français qu'à la fin du mois, la part de gâteau ne cesse de rétrécir.
Un pouvoir d'achat en hausse, mais ressenti en baisse, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Une vaste opération d'évacuation d'un camp de migrants est en cours, porte d'Aubervilliers à Paris ce matin. Près d'un millier de personnes vont être prises en charge et amenées dans des gymnases ou des centres d'hébergement. Les associations dénoncent de leur côté le cycle infernal des évacuations, réinstallations de la porte de la Chapelle à la porte d'Aubervilliers en passant par la porte de la Villette. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Paris, avec un duel à distance hier soir entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Le premier tenait une réunion publique dans le 11e arrondissement. Le second avait réservé le théâtre Bobineau pour un grand meeting. Et pour l'ex-porte-parole du gouvernement, Karine Bécard, un mea culpa bien préparé.
À défaut d'attirer Cédric Villani, Benjamin Griveaux pourrait espérer récupérer ses électeurs. C'est donc à eux qu'il s'est adressé, en toute humilité.
Je sais qu'ils ont sans doute aimé chez lui ce qu'ils ne retrouvaient pas chez moi. Davantage de naturel et peut-être aussi d'émotivité. Il me reste 7 semaines pour vous dire ma part de vérité que vous n'avez pas pu voir jusqu'alors parce que je n'ai sans doute pas assez su la partager avec vous.
Benjamin Griveaux presque métamorphosé, alors qu'au meeting de Cédric Villani, on a tout fait pour ne pas en parler.
Est-ce que vous avez entendu ce soir des questions concernant les partis ? Je crois que ce soir nous avons parlé de fond et c'est bien cela qui intéresse tous ceux qui sont venus ici ce soir.
C'est vrai. Et dans un style plus détendu, Benjamin Griveaux s'est attaqué aussi au sujet de fond.
C'est l'année du rat. Le problème à Paris, c'est que c'est l'année du rat depuis longtemps. Et que j'ai le sentiment qu'on a déjà fêté l'année du rat plusieurs fois ces dernières années.
En fait, l'un et l'autre n'ont officiellement qu'une seule adversaire, c'est Anne Hidalgo. Seulement, Cédric Villani doit être exclu demain, mercredi, de La République En Marche. Donc Benjamin Griveaux va jouer également la carte des militants qui souhaitent à tout prix rester dans le parti.
Municipal encore avec Gérald Darmanin qui a officialisé hier sa volonté de conduire la liste LREM à Tourcoing. Et puis c'est vendredi qu'Edouard Philippe dira s'il est ou non candidat au Havre et en quelle position.
Il est 7h09, Agnès. Donald Trump doit présenter en fin de journée son plan de paix pour le Proche-Orient.
Un très grand plan, selon les mots du président américain, qui dévoilera les résultats de 2 ans de travail aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, reçu hier à la Maison-Blanche. Un plan d'ores et déjà qualifié d'historique par Israël et dénoncé par les autorités palestiniennes. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h. Brexit, J-3 et les mises en garde de Bruxelles se multiplient face à un possible rapprochement commercial entre la Grande-Bretagne et son allié américain. Michel Barnier a rappelé hier aux Britanniques que leur accès au marché unique sera proportionnel à leur degré d'alignement sur les normes européennes en matière environnementale et sociale. Il n'est pas question que la Grande-Bretagne soit la porte d'entrée de produits américains interdits dans l'Union. Angélique Bois. Aucun Européen ne veut dans son assiette de poulet chloré américain et pourtant, il y a un risque, affirme Pascal Canfin. Une fois importée, la volaille peut être désossée, mise en barquette et tamponnée produit britannique. Il faudra être très vigilant et totalement transparent sur les contrôles, insiste le président de la Commission Environnement au Parlement européen.
Le risque, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni signent un accord commercial qui ferait que le poulet qui ne respecterait pas les normes européennes arriverait massivement au Royaume-Uni et qu'ensuite on ait du mal à contrôler son passage du Royaume-Uni au continent européen, sachant qu'une fois qu'ils sont en Irlande, ils sont considérés comme dans le marché unique européen et donc ensuite on ne les contrôle plus.
Et pour l'éviter, il faut établir des règles du jeu précises avec Londres mais aussi entre Européens, ajoute-t-il. Éviter par exemple qu'un port belge ait moins de contrôleurs que son voisin néerlandais, sous peine de voir les bateaux britanniques choisir le moins regardant. S'assurer également que Londres accepte de faire évoluer sa réglementation dans le temps au même rythme que les futures normes européennes, ce qui n'est pas gagné. Autre enjeu, maintenir l'unité des 27 car les priorités divergent. Pêche et sécurité alimentaire sont essentielles pour de nombreux États, dont la France. À l'Est, l'important ce sont les biens industriels. Au Luxembourg, les services financiers. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et la priorité du moment en Grèce, c'est d'attirer de nouveaux touristes. Le secteur représente un quart du produit intérieur brut. Athènes a donc décidé de permettre la plongée sous-marine sur des épaves qui datent de plus de 50 ans et qui étaient jusqu'ici interdites d'accès. Les fonds marins grecs sont connus pour abriter de nombreuses épaves datant des deux guerres mondiales, dont le Britannique, jumeau du Titanic, qui a coulé en 1916 au large de l'île de Kéa.
Et pour finir, les étoiles perdues et gagnées du Michelin.
Et les étoiles surprises, Nicolas, avec pour la première fois en France hier le sacre d'un chef japonais, Kei Kobayashi, qui décroche une troisième étoile. Donc, Valentin Dunat l'a rencontré lors de la cérémonie de remise des prix hier. Reportage.
Kei Kobayashi est un prodige, formé par les plus grands Alain Ducasse et Gilles Goujon de l'auberge du Vieux Puy, chef 3 étoiles depuis 10 ans, fier de parler de son ancien cuisinier aux médias japonais.
The first one, the best one. Et c'est le mien.
Kei Kobayashi est un passionné du terroir et de la cuisine française. Il parle de la gastronomie comme d'un art, un plat comme d'un tableau.
La cuisine, c'est vrai, vraiment, il faut des émotions, mais par contre, partager de plaisir. Comme au tableau, comme passer bon moment au restaurant. Il faut bon feeling, tout ça continue, bienvenue et tout ça. Jusqu'à la fin, c'est ça qui est cuisine gastronomique.
Et enfin, parce que vous parlez d'art, je vois vos chaussures.
Ouais.
Vous avez des chaussures noir avec des pics,
ouais.
Avec des semelles rouges,
ouais.
Des cheveux blancs.
Ouais.
Vous allez bientôt faire de la mode ou pas ?
Ah non, pas encore.
C'est dire si ce chef a de la suite dans les idées. Il estime même très humblement qu'il n'arrive pas encore à nous faire goûter entièrement à son univers. Pourtant, le guide Michelin écrit à son sujet que sa fulgurance créative associée à la solidité de sa technique s'exprime dans tous ses plats et assure à ses convives une parenthèse gastronomique hors du commun.
Et deux autres chefs ont reçu une troisième étoile. Glenville de Lousteau de Beaumanière au Beau-de-Provence et Christopher Coutenceau pour le restaurant qui porte son nom à La Rochelle. 49 nouvelles tables ont également décroché une première étoile.
Merci Agnès Soubiran.